montrer par exemple cette image qui elle n'a pas été obtenue par un télescope dans l'espace, mais qui montre une étoile qui, dans ce cas particulier, a ce nom, est très semblable au Soleil. Elle est ici et elle a un disque de poussière qui est vu par la tranche comme notre système solaire, dans lequel il est plus que vraisemblable que se trouvent présentes des planètes. Alors l'échelle, on la ramène à l'échelle, le premier cliché que je vous montrais, eh bien l'échelle, c'est qu'à peu près l'orbite de Neptune fait à peu près cette distance-là. L'étoile a naturellement été cachée ici avec un masque pour ne pas éblouir l'ensemble du cliché. Donc le système solaire, à cette échelle-là, il est tout à fait perceptible. Et là, on est dans les banlieues lointaines du système solaire. Alors c'est une façon de me relier, et je m'arrêterai là-dessus, à l'exposé de ce matin, quelle est la signature de la vie si on la recherche à grande distance. On a parlé des effets de la vie ce matin. Alors regardons trois planètes du système solaire, Vénus, la Terre et Mars, et regardons l'aspect de la lumière qu'elles émettent, ce qu'on appelle le spectre, dans l'infrarouge, puisqu'une planète n'étant pas très chaude, rayonne surtout dans l'infrarouge. On la voit dans le ciel, on voit surtout la lumière qu'elle reçoit du soleil et qu'elle nous renvoie, pas son rayonnement propre. Alors, vous voyez, Vénus, eh bien, elle a deux signatures qui sont très caractéristiques de la présence d'eau et de dioxyde de carbone. Il y en a même tellement sur Vénus que l'effet de serre y est extrêmement important et que la surface est extrêmement inconfortable. Mars est dans une situation assez semblable, un peu. La pression y est beaucoup plus basse, mais il a la signature du peu d'eau qui reste dans son atmosphère et il a aussi la signature du monoxyde de carbone. Mais la Terre, elle, elle a la signature de l'ozone. Parce que l'ozone forme une couche protectrice à 40-50 km d'altitude. Et cet ozone n'existe que parce qu'il y a de l'oxygène sur la Terre. Et cet oxygène n'existe que parce que la Terre, en fait, est en déséquilibre et que c'est la matière vivante, toute l'activité biotique sur la Terre, qui maintient la présence d'oxygène et donc, par voie de conséquence, d'ozone. Reste à prouver que ceci est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de fabriquer une signature d'ozone de façon abiotique. C'est ce que beaucoup de scientifiques pensent aujourd'hui, et donc la stratégie de recherche de la vie dans ces planètes proches, c'est justement la recherche de cette signature d'ozone. Mais les certitudes ne sont pas encore acquises sur ce point. Donc, voilà, je m'arrêterai là pour le moment. Il y a, à l'évidence, un troisième volet de l'espace que nous avons tous en tête, c'est celui du regard vers la tête, des applications, communication, l'observation de la Terre, évidemment, beaucoup plus en interface avec l'économie. Et ces deux premiers aspects, ils sont extraordinairement moteurs dans la vie politique et dans les choix faits par les États, puisque pratiquement toute cette activité relève de choix publics et non pas de choix privés, donc n'obéit pas, ou pas d'abord à la logique du marché, mais plutôt à la logique de la puissance ou à la logique de la connaissance, mais que cette activité, sous ces deux facettes, a été extraordinairement présente dans les 40 premières années de l'exploration de l'espace. Peut-être on peut dialoguer un peu là-dessus.
Oui, si tu veux. Hein, on peut commencer. La signature de la vie est toujours liée à l'oxygène, Pierre.
Il faudrait interroger le biologiste.
Parce qu'il me semblait, Charles, au début, dans le premier milliard d'années, les prokaryotes vivaient sans oxygène.
Le carbone.
Ah oui, c'est ça. C'est pas l'oxygène. C'est la vie récente. Des plantes, il faut que ce soit des plantes, c'est-à-dire des métazoaires.
On reste assis. On va rester. Il m'a dit qu'il fallait.
Alors, qui a des questions à poser là sur l'exposé de Pierre Léna, ou au moins cette partie de l'exposé? Questions?
Oui, tout à fait. Je peux même vous donner les chiffres. Il y a, je peux vous donner les chiffres parce qu'ils sont quand même, mais j'essaie de par cœur, ils sont très parlants. Il y a des centaines de tonnes de débris dans l'espace de toute taille.
Et le risque de collision existe.
Et le risque de 20 000 tonnes de matériaux ont été mis en orbite autour de la Terre. 20 000 tonnes. 4 500 tonnes y sont encore. 4 800 satellites ont été placés en orbite. Ça, c'est des chiffres de 99, donc tout à fait à jour. 2 400 y sont encore, dont les trois quarts ont terminé leur mission et attendent simplement de se consumer plus ou moins bien. Les 10 premières années d'exploitation de la station Mir ont occasionné le largage de plus de 200 objets, essentiellement des sacs poubelles d'ailleurs. Il y a 35 millions d'objets dans l'espace qui ont une taille comprise entre 1 mm et 1 cm. Et il faut savoir que n'importe lequel de ces objets peut produire des dommages considérables à une navette spatiale, par exemple. Il la heurte à des vitesses qui atteignent une trentaine de kilomètres par seconde. Ah, tout ça est humain.
Oui, oui. Oui, mais il faut comme... N'oubliez pas, cher ami, que 2500 tonnes, c'est la taille d'un tout petit bateau. Rien du tout. Par rapport à l'immensité de l'espace, c'est quasi négligeable.
Mais coupé en petits morceaux de centimètres qui chacun peuvent être un
boulon,
destructeur,
oui,
c'est beaucoup. Alors, c'est auto-nettoyant, mais ça dépend de l'altitude. C'est-à-dire qu'un objet à 400 km va se consumer très rapidement. Un objet à 10 000 km va mettre plusieurs centaines de milliers d'années pour redescendre. Donc, les objets qui sont à l'orbite géostationnaire, il y a tout un programme pour désorbiter les objets, les satellites de télécommunication en orbite géostationnaire, parce que il y a une place limitée sur cette orbite. Donc, quand un satellite a terminé sa vie, ben, il faut qu'il dégage. Donc, le problème de la gestion des débris dans l'espace est un vrai problème à venir. C'est un problème d'écologie et c'est un problème juridique. Il relève des mêmes catégories d'analyse que celles qui ont été développées ce matin. Mais dans un espace qui n'a pas d'appropriation individuelle et dont la gestion est assumée collectivement par les États.
Jean-Marc,
qu'est-ce que c'est que le concept d'un univers sans bord?
Vous savez, la physique, on parle de physique là. La physique, c'est une science expérimentale. Donc, si on ne peut pas concevoir une expérience qui puisse donner une réponse à une question, la question n'est pas pertinente. Alors, y a-t-il... Votre question est tout à fait pertinente, mais je la reprends avec un exemple physique, une expérience que Einstein appelait une Gedanken Experiment, une expérience de pensée. Peut-être qu'on n'a pas la technologie pour la faire, mais si on la faisait, quel pourrait être le résultat? Alors, je prends un faisceau laser, un petit laser, je le pointe vers la profondeur de la nuit étoilée dans une direction quelconque. Bien, un univers sans bornes. C'est un univers dans lequel, quel que soit le temps pendant lequel j'attends, ce rayon laser ne me revient jamais. Parallèle, la Terre serait plate, un plan sans bord, eh bien le voyageur parti dans une direction quelconque ne revient jamais à son point de départ. Alternative, je tire le rayon de laser dans une direction, j'attends assez longtemps, mais dizaines de milliards d'années, pas si long que ça, et le rayon laser me revient par derrière. Il a fait le tour d'un espace fermé, donc borné. Parallèle, le voyageur part au sud, fait le tour de la Terre et revient à son point de départ par derrière. Il est sur un espace borné. Voilà l'expérience de pensée. Naturellement, on va essayer d'avoir la réponse à cette expérience de pensée par des biais qui soient plus faciles qu'attendre 10 ou 15 milliards d'années le résultat de l'expérience. Par malheur, le rayon laser a rencontré un objet sur son passage. L'expérience est terminée. La réponse aujourd'hui n'est pas connue. Ce que l'on sait, en particulier de la mesure des densités de galaxies, l'univers est probablement très proche de la frontière entre être fermé et être ouvert, c'est-à-dire une terre qui serait tellement plate que sa courbure serait presque négligeable. Voilà, et on n'a pas la réponse.
Il me semble pourtant que la réponse d'Einstein ne fait que répéter la question. Car si tu demandes si l'univers est infini et que tu réponds par une expérience où il faut attendre un temps infini pour avoir la réponse, il n'a fait que répéter la question.
Non, j'ai développé l'expérience de pensée pour essayer de rendre concrète la question d'infini en la rapprochant d'une expérience simple. Mais il y a d'autres critères.
Oui, mais Einstein ne fait que remplacer la question de l'espace par la question du temps. C'est-à-dire, est-ce que l'univers est infini? Mais j'attends une infinité de temps.
Non,
pour avoir
un temps fini. Long, mais fini.
Long. Mais si c'est long, mais fini, l'univers est fini.
Oui,
oui. Donc, c'est bien ça. On va répéter la question.
Ah oui, oui.
Oui, oui. L'espace que je pense que c'était courbe.
Vous savez, la question de croire n'est pas une question à poser à un scientifique. Tout au moins dans le plan de la science. On peut faire des hypothèses. Matin, on peut essayer de les vérifier ou de les infirmer. Et s'agissant de la question que vous posez, est-ce qu'il y a une observation confrontée par d'autres qui va dans le sens de l'expansion, ou est-ce qu'il y a des observations plus solides, plus fiables, plus homogènes aux lois de la physique que nous connaissons assez bien, même parfois très très bien, qui vont dans le sens d'un univers statique? Tout dit aujourd'hui qu'on est dans le premier cas, un univers en expansion. Peut-être la découverte la plus importante, au moins dans le domaine de l'espace du XXe siècle, la découverte de l'expansion. Et elle a modifié profondément l'image que nous nous faisons de nous-mêmes, enfin je crois. Oui, merci. Voilà, c'est d'ailleurs tout à fait étonnant de voir que ces questions-là font l'objet de tant d'intérêt de la presse, du public, de nous tous finalement, alors que franchement, les échelles de temps et d'espace qu'elles concernent sont totalement étrangères à notre quotidien. C'est dire à quel point, je crois, la pulsion d'origine et de se positionner dans l'espace est en fait important. Je suis sûr que le philosophe a des choses à dire là-dessus.
Mais il ne m'étonne pas personnellement que quelqu'un se pose une question en dehors de son existence. C'est tout à fait naturel.
C'est naturel.
Oui.
Mais ça tient beaucoup de place. Alors, je réponds à votre question. Ce n'est pas tant la masse qui compte que la densité, c'est-à-dire la masse qu'il y a dans un volume donné. L'univers est plein de galaxies. Et on peut prendre isoler un certain volume, un mètre cube c'est un peu petit pour contenir une galaxie, enfin, on prend beaucoup de mètres cubes, et puis compter la masse qu'il y a dans l'univers. Et si cette masse est très importante par rapport au mouvement d'expansion des galaxies, alors la gravité va rappeler le mouvement d'expansion un jour, et on va inverser le mouvement. Si au contraire cette masse est plus faible, eh bien la gravité va être insuffisante et l'expansion va se poursuivre. En fait, la question est compliquée aujourd'hui de quelque chose qui est absolument prodigieux et qui peut encore modifier beaucoup notre façon de nous représenter l'univers, que nous savons de source, de façon sûre maintenant, depuis probablement une dizaine d'années, que la matière, qu'on appelle visible d'ailleurs, celle dont on voit l'émission de lumière, n'est qu'une petite proportion, quelques pourcents de la matière présente dans l'univers. Comment connaissons-nous l'existence du reste? Eh bien justement par l'effet de sa gravité, parce que cette matière mystérieuse attire et modifie les trajectoires des étoiles, par exemple, dans une galaxie. Donc il y a dans l'univers, peut-être dans cette pièce, en tout cas à grande échelle dans l'espace qui sépare les galaxies et à l'intérieur des galaxies, il y a de la matière qui est tout à fait banale dans la mesure où elle attire une pomme de la même manière que la Terre attire celle de Newton, et qui pourtant ne traduit sa présence par aucune émission de lumière, ce qui fait qu'on l'appelle quelquefois matière noire ou encore masse cachée. Quelle est-elle? Quelle est son origine? Qu'est-ce que les physiciens qui explorent les profondeurs de la matière au CERN, à côté d'ici, peuvent-ils nous dire de sa nature? Capiche est plus compétent que moi, sans doute, pour en parler. Mais c'est un grand mystère, vous voyez, parce que l'univers est plein de choses dont on ne sait rien. Mais absolument. Charles?
Alors on savait l'heure pratiquement et la minute à laquelle le satellite passerait au-dessus de Tétis. Mais là, si on pose la question de savoir à quel moment, et même si l'univers va commencer à se reconcentrer, on ne sait même pas si c'est envisageable et encore moins à quel moment.
Là, moi, je crois que l'incertitude est probablement liée au caractère global de la question, et la certitude est liée au caractère local de la question. Dans le cas du temps et de l'espace parcouru par le satellite en question, le problème est toujours local. On sait quand il part, on domine complètement les forces d'énergie, on sait calculer la trajectoire, elle est entièrement newtonienne, donc parfaitement déterminée. Donc, elle est prévisible au sens de Maupertuis. Et donc, le problème est toujours localisé. Tandis que dans les questions qu'agite aujourd'hui et maintenant Pierre, la question est globale et elle ne peut pas être cernée. Et par conséquent, plus elle est globale, moins elle est déterminée. Tandis que dans l'autre cas, elle était parfaitement déterminée, de locale donc déterminée. On pourrait dire ça. Ça inverse exactement la question.
C'est-à-dire, on peut encore dire que la situation globale dépend d'un nombre tellement considérable de paramètres inconnus.
Et d'ignorance.
C'est simplement donner un chiffre pour faire mesurer le paradoxe. On sait beaucoup de choses sur l'univers. Au-delà du système solaire, on commence à aller localement. Bien comment fonctionnent les étoiles, on connaît la grande diversité des types d'étoiles, on est capable maintenant de déterminer autour d'une trentaine d'entre elles la présence de grosses planètes, au moins. Le monde des sciences d'hier en parlait d'ailleurs. Et tout ça, on le sait grâce à des télescopes, qui sont nos seuls outils d'investigation, puisqu'on ne connaît tout cela que par la lumière que ça nous envoie, d'où l'ignorance qu'on ait de la matière. Et savez-vous que si je mets côte à côte tous les télescopes qui existent sur Terre, j'obtiens une surface qui est à peu près celle de la place de la Concorde. Autrement dit, tout ce que nous savons sur l'univers, nos débats de salon ou de savants sur le Big Bang, l'expansion, l'histoire des galaxies, les étoiles, ça, tout cela s'est obtenu avec un œil dont la surface est ridiculement petite. Si on voulait le tracer sur la face de la Terre qui nous était projetée ce matin, à un point. Ça donne quand même une mesure à la fois de la puissance de l'esprit humain et de la disproportion par rapport à la richesse du réel, qui est certainement des ordres de grandeur probablement inimaginables, foisonnantes que ce que nous en connaissons. Alors, je ne dis pas du tout ça pour dire que les astronomes, on doit leur payer des télescopes plus grands. Ils disent disent volontiers par ailleurs. Peut-être un petit peu. Mais c'est pour mettre en proportion l'immensité de l'espace et puis la petitesse de nos moyens. Et encore, je devrais ajouter qu'on n'a ça que depuis 50 ans.
Clapiche. Associés aux électrons les plus lourds, aux électrons tôt, pourraient avoir une masse faible. Mais
même dans ce cas, elle ne suffit pas.
Elle ne suffit pas. Et par conséquent, il y a un certain, est-ce que je dirais consensus chez les cosmologues, de dire que non, ce n'est pas les neutrinos, mais ça serait probablement des particules qu'on appelle supersymétriques et qui ont la propriété qu'on n'en a absolument aucune preuve de leur existence. Alors, pour être très bref, il y a dans le monde deux espèces de particules. Il y a les particules qui donnent les structures, essentiellement les électrons, les quarks et leurs diverses combinaisons, qui ont la propriété, c'est ce qu'on appelle le principe de Pauli, qu'il ne peut pas y en avoir deux au même endroit. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut des structures, des cristaux, des êtres vivants, etc. Les autres particules sont ce qu'on appelle les particules de champ, c'est-à-dire le photon, mais aussi le W, le Z, qui a été trouvé par Pauli, etc. Et celles-là peuvent se mélanger, peuvent être une soupe, peuvent être... Il y avoir autant de photons qu'on veut au même endroit. Alors, l'idée absolument géniale, mais qui ne repose sur aucune preuve expérimentale, simplement sur l'esthétisme, c'est-à-dire au fond, si on veut que le monde soit unifié, il faudrait qu'à chaque particule, qu'on appelle un fermion, une particule de structure, corresponde une particule hypothétique, qui serait une particule symétrique. Alors, on les appelle INO. Alors, par exemple, les gluons, qui sont des particules de champ, à l'intérieur des noyaux, à ça il correspondrait un gluino, qui lui, c'est une particule de structure. Alors ceci est admirable, ça pourrait avoir de la masse, simplement il n'y a absolument aucune preuve, ni directe ni indirecte, que ça existe, et c'est peut-être un début de ce livre de LHC, de trouver entre autres ce genre de choses. Mais c'est pour montrer à quel point ceci est très spéculatif. Mais l'expérience quand même a montré que les choses qui ne reposent sur aucune preuves expérimentales, même si elles sont tentantes.
Elles sont fragiles, elles sont tentantes, mais quelquefois, autre signe peut-être de la puissance de l'esprit humain, on attend des siècles et on les trouve.
Peut-être.
Peut-être le meilleur exemple, ce sont justement ces planètes autour d'autres étoiles. Ça fait 25 siècles que les êtres humains se disent, par esthétisme, peut-être, je reprends le mot, s'il y a des planètes autour du Soleil, ça doit s'être produit ailleurs. Et on a beaucoup raisonné là-dessus. Mais la preuve n'en a jamais été apportée jusqu'à 1995. Et maintenant, on sait que cet énoncé en l'air, esthétique, symétrique, sympathique, que sais-je, était un énoncé correct.
Tu as raison. Il y a également, je crois qu'il faut souligner ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a un puissant moteur intellectuel de la recherche, un moteur heuristique qui aide effectivement de rechercher ces symétries, d'aller vers... C'est effectivement un moteur dont on ne peut pas se passer. Simplement, je voudrais peut-être nuancer ce que j'ai dit. À partir du moment où on n'a aucune preuve de l'existence de ces choses, leur attribuer des propriétés, des masses, alors là, c'est vraiment...
J'espère que vous avez apprécié profondément l'alliance qui peut exister entre le philosophe et le savant, puisque le savant, désormais comme le philosophe, s'appuie sur des choses qui n'existent pas. Jean-Marc.
Oui.
On pense maintenant effectivement qu'aux quatre dimensions classiques de l'espace-temps, eh bien, il y a peut-être des objets, qu'on appelle les cordes, qui auraient un grand nombre de dimensions. Alors, je ne peux pas vous dire combien, mais ça peut être 11, ça peut être etc. Et dont on ne verrait qu'une partie. Alors ça, c'est vraiment très technique. Ça pourrait donner indirectement lieu à l'explication de certaines propriétés. C'est quelque chose qui est très vrai, mais je ne suis vraiment pas compétent pour en parler davantage.
Mais là aussi, ce sont des choses auxquelles on spécule, et puis il arrive un moment où ça explique et ça met ensemble un grand nombre de faits qui sont restés inexpliqués. Pour l'instant, il faut dire que la physique des particules est dominée par ce qu'on appelle le modèle standard, qui date d'il y a une quinzaine d'années, et que malgré toutes les recherches qui ont été faites au CERN et ailleurs, on n'a pas trouvé finalement de physique qui, de façon claire, viole ce modèle standard. Le modèle standard qui, par ailleurs, n'explique pas tout, en particulier l'existence de trois familles de particules découle des principes du modèle standard. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé véritablement de physique au-delà du modèle standard.
Pour les particules, il est quand même correct de dire que l'idée d'atome a 25 siècles. Bien avant.
Plus de 25 siècles. 30 même. Puisque le premier, c'est Épicure. Ça fait, oui, c'est M. Caron qui écrit 25 siècles. Hein.
Télescope qui est vu de l'univers, on n'a pas les mêmes résultats. Et ça me fait penser à quelque chose, c'est-à-dire que est-ce qu'on pourrait penser à une sociologie de l'univers, c'est-à-dire se projeter comme si l'univers maintenant est conquis par les êtres humains, et de voir quels sont les problèmes que ça pourrait poser à l'être humain dans une condition où on est très différent de la Terre, c'est-à-dire que les ressources sont quasiment infinies, et donc voir si de nouveau on a de nouveaux problèmes. C'est que ces problèmes-là sont beaucoup plus intrinsèques à l'être humain que simplement des problèmes d'ordre, je dirais, nutritionnel ou de déchets, ainsi de suite. Un autre élément par rapport à la remarque de dire qu'il y avait des particules de structuration et des particules qui peuvent se superposer. Moi, je travaille beaucoup sur le online, donc essayer de voir comment on pourrait créer un certain nombre de choses online. Et par rapport à la société, vous avez des êtres humains physiques, si je peux dire, et puis il y a ce qu'on appelle sur le online les avatars. Et une grosse différence entre les avatars et les gens online, c'est qu'effectivement, les avatars sur le online, vous pouvez les superposer autant que vous voulez. Et donc, je veux dire, cette idée, c'est curieux, en fait, elle s'applique aujourd'hui dans quelque chose de très concret, c'est-à-dire projeter l'être humain dans d'autres images. Et donc, en fait, là, c'est l'être humain, mais par rapport à ce que vous disiez, c'était par rapport aux particules, mais... C'est quelque chose qui est vraiment au fond de nous, puisqu'on arrive à le faire dans différents domaines.
Vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément ce qu'est un avatar?
Oui, ce qui est très intéressant de voir, c'est que pour moi, la conquête de l'espace ou la conquête du online, si je peux dire, on doit y aller avec sans a priori, c'est-à-dire qu'on essaye de se débarrasser des contraintes qu'on a dans le monde conventionnel. Je ne vais pas rentrer dans le débat du réel et du pas réel. L'avatar, en fait, c'est une entité online qui vous représente. Et cette entité peut avoir plusieurs formes. Donc, en fait, il peut vous représenter selon une certaine forme physique, mais aussi selon une certaine forme, en termes de comportement. Donc, l'avatar, c'est votre représentation online de ce que vous pouvez être. Alors, il y a une très grosse différence du monde online et du monde conventionnel, c'est que sur le monde online, il n'y a pas de notion de la simultanéité ne tue pas. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes assis là et que je veux vraiment m'asseoir là, au bout d'un moment, on va se battre. Alors que sur online, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, sur online, la réversibilité existe. Alors que dans le monde conventionnel, si je commence à vous tuer, il est difficile de revenir. Donc en fait, tous ces éléments-là entraînent des conséquences, je dirais, d'ordre psychologique très important sur le online. Et il est très intéressant d'essayer de voir comment on pourrait se projeter dans un nouveau monde. Là, c'est le online, vous, c'est l'espace. Et essayer de ne pas nous ramener tous les problèmes qu'on a dus à des contraintes qui sont liées à cet environnement-là. Donc, l'avatar, c'est votre représentation online.
Moi, j'ai deux choses à répondre, Pierre, si tu permets. Ce que dit Caïmine est très intéressant sur l'avatar, qui est le mot hindou qui veut dire l'état d'un dieu dans un autre cas. Hein. Bon. Et les physiciens connaissent très bien ça, Caïmine. Parce que dans le monde expérimental des physiciens, ils ont utilisé l'avatar depuis très longtemps, sans le nommer ainsi. Par exemple, le bonhomme d'Ampère ou le démon de Maxwell sont des avatars de l'observateur. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, le démon de Maxwell, tel qu'il est dans l'enceinte thermodynamique pour trier les molécules, il est évident que c'est un avatar du physicien, mais qui a des propriétés différentes du physicien, mais qui le représente. Donc, ce que tu appelles l'avatar online, les physiciens le connaissent. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque que je pourrais faire, c'est qu'en effet, il y a dans la non-superposition de l'espace quelque chose qui est profond, un, physiquement, deux, psychologiquement, et trois, sociologiquement. Je m'explique. En effet, que ce soit des particules ou des objets donnés, il est extrêmement difficile de dire qu'ils peuvent prendre la même place qu'une chose qui est déjà là. Ça veut dire que je ne peux pas m'asseoir sur le fauteuil de Pierre lorsque Pierre est assis. Parce que je suis de tel univers.
Et que vous en êtes un autre.
Et que j'en suis un autre. Et que donc tu ne peux pas t'asseoir sur mon... Et que probablement, c'est de là que vient toutes les questions de guerre, bataille, etc. C'est-à-dire, c'est la question de je ne peux pas être au même endroit que mon voisin quand il y est. C'est-à-dire, ôte-toi de là que je m'y mette. Et c'est le principe de toutes les guerres. Alors là, il n'y a pas d'avatar possible.
Ça, c'est vrai. Il y a d'avatar
possible. Et donc, une physique qui, comme vient de dire M. Clapiche, dirait le contraire. C'est-à-dire une physique où des particules pourraient, comme les photons que tu viens de définir, prendre une même place que toutes les autres, déterminerait premièrement d'autres lois physiques, qui seraient de l'ordre de l'avatar, et deuxièmement, induirait chez nous un autre type de psychologie, ou un autre type de comportement. Parce qu'en effet, dès lors que je pourrais être assis au même endroit que Pierre ou que... 1000 Chinois pourraient utiliser le même espace australien que les Australiens, alors il n'y a plus de guerre. Ah voilà. Mais non. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de société. Il y a une autre conduite collective. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr. C'est ça. Exactement.
Néanmoins, il est certain que les fermions n'ont pas que la possibilité d'avoir des conflits et des guerres, ils sont la source de toute la beauté qu'il y a dans l'univers, de toute la
vie. Exactement.
Et de la vie.
Bon. C'est-à-dire de la topographie, la topologie.
Si on a, exactement,
oui.
Si on a
ils sont topologiques.
Soupe, on a une soupe et elle est informe.
Ils ont un mélange.
Et donc, alors je ne sais pas si on peut extrapoler à la société, alors tu dis il n'y aurait pas de conflit, d'accord, mais à ce moment-là, il n'y aurait pas non plus
il y aurait pas
une assemblée
de distinction. C'était, excuse-moi, je termine, ce problème a l'air très moderne, comme ça, de l'avatar online ou du fermion, mais tu sais que c'est un très très vieux problème, qui date à peu près de l'époque où on a inventé les atomes. Et c'est la question suivante, les Grecs se posaient la question de savoir qu'est-ce qu'un mélange, capiche. Et ils disaient, oui, c'est très difficile à comprendre ce que c'est qu'un mélange, mais on peut mélanger deux sortes de choses, disaient-ils. Et c'est les stoïciens qui disaient ça, si tu mélanges des grains de blé avec des grains de riz, ça fait un mélange donné. Et on voit très bien la distribution du riz dans le blé et du blé dans le riz. Mais, disait-il, si tu mélanges une goutte de vin dans l'eau, alors ça donne un mélange très différent. Et il disait, supposons qu'on mette une goutte de vin dans la mer Méditerranée, et la question était... au bout de 2 ou 3 jours, où est-elle? Et la réponse était, elle est partout. Et il disait en riant, alors toute la flotte d'Ulysse navigue dans la goutte de vin. Ce qui était assez vrai. Et là, ça a imposé une autre logique. Et déjà, il disait, Clapiche, il y a deux logiques physiques. Il y a la logique de la distinction grain de riz, grain de blé, et la logique de la goutte de vin. Et là, il le continue.
Je crois qu'il faut... continuer l'analogie jusqu'à son terme. Et en fait, il y a les fermions qui font les structures. En fait, il y a les bosons qui font les relations. Donc on en revient à exactement la discussion de ce matin, à savoir qu'il n'y a pas deux univers séparés, il y a en fait un seul univers avec les fermions sur lesquels on bute,